같이 한번 드리네. Avec tout passage que nous lisons dans le premier livre des Chroniques, se trouve au chapitre 22. Et David dit : c'est ici la maison de l'éternel Dieu, et c'est ici l'autel. Il établit des tailleurs de pierre pour tailler des pierres de taille, pour bâtir la maison de Dieu. Au verset 5, car David dit, Salomon, mon fils, est jeune et délicat, et la maison à bâtir pour l'Éternel doit être très grande en renom et en beauté dans tous les pays. Ainsi, je préparerai pour elle ce qu'il faut. Et David le prépara en abondance avant sa mort. Au verset 14, « Et voici, dans mon affliction, j'ai préparé pour la maison d'Éternel de l'or 100 000 talents, et de l'argent 1 000 000 de talents, et de l'airain et du fer 100 poids, car il est en abondance, et j'ai préparé du bois et des pierres, et tu y ajouteras. » Nous arrêtons là pour le moment. Convient d'abord d'essayer de relier ce que nous venons de lire aux événements, aux circonstances qui précèdent. Et nous sommes émerveillés de voir comment Dieu a la prérogative de tirer le bien du mal. Nous savons que le veau d'or au jour de la sortie d'Égypte a été l'occasion pour Dieu de révéler toutes ses pensées à l'égard du tabernacle. Ici, l'occasion, c'est une faute bien lourde de David. Il n'est pas dans ce cas un type de Christ. Il nous ressemble, nous lui ressemblons étrangement. Et la faute de David est d'autant plus lourde que son caractère humble est trouvé gravement en défaut. C'est un homme qui tout à coup s'exalte et veut mesurer autour de lui les forces dont il dispose pour se glorifier en elles. C'est le dénombrement auquel David s'est livré, et nous lisons que pour un homme aussi peu pieux que Joab, c'était une abomination pour lui. Et cette faute de David, elle a duré longtemps, plus de 9 mois. Mais Dieu aime ses enfants, et parce que nous sommes aimés de notre Dieu, nous sommes soumis à la discipline. Et comme la chose que David avait faite fut mauvaise aux yeux de l'Éternel, il va frapper David et il va frapper Israël, car le péché de David était sans doute dans le cœur de tous les Israélites. Dans ce temps où David était parvenu au pouvoir, l'orgueil s'était facilement introduit dans leur cœur. Et David va se reprendre et il va dire « J'ai grandement péché en ce que j'ai fait cette chose. » Mais bien que confessant et le faisant sincèrement, bien que confessant sa faute sincèrement, David, leçon importante à retenir, n'échappe pas aux nécessités du gouvernement de Dieu qui s'exerce sur nous et qui s'exerce de façon d'autant plus réelle, d'autant plus sensible, que nous sommes plus proches de lui, car le jugement commence par sa propre maison. Et Dieu va répondre à cette confession de David, mais David et le peuple d'Israël devra connaître ce que ce jugement de Dieu, ce gouvernement de Dieu a de sérieux et de solennel. La leçon que nous retenons, c'est que nous devons moissonner ce que nous semons. Si nous semons du seigle, nous n'allons pas récolter du froment. Ce sont des dispositions liées à la nature morale de Dieu auxquelles personne ne peut se soustraire, ni croyant ni incroyant. Et d'autant plus que nous sommes proches de Dieu, que nos privilèges sont grands, Dieu nous visite davantage selon les lois immuables de son gouvernement. Que je tombe, dit-il, entre les mains de l'Éternel, car Dieu lui a donné le choix entre trois sanctions, trois punitions. 3 ans de famine, 3 mois atteints par ses adversaires, ou 3 jours soumis à l'épée de l'Éternel elle-même. Et si nous prenions 3 ans, 3 mois, 3 jours, comme c'est significatif, nous arrivons à 3 heures. Car ici, vous allez le voir, la miséricorde de Dieu va intervenir pour faire cesser le jugement exercé par l'ange, car David a évidemment choisi le jugement exercé par l'Éternel lui-même. Il a bien plus confiance dans la miséricorde de Dieu que dans les sentiments des hommes. Mais, quoi qu'il en soit, il devra connaître la rigueur de ce gouvernement. Mais Dieu va intervenir, malgré tout, en grâce, pour diminuer, si vous voulez, la longueur de ce jugement, la durée de ce jugement, 3 ans, 3 mois, 3 jours. Mais pour celui auquel nous pensons en relation avec les 3 heures, rien ne fut diminué, rien ne fut atténué. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous, et chaque transgression a dû recevoir sa juste rétribution. Dieu va dire à l'ange, maintenant c'est assez. Mais non pas en relation avec la repentance de David, si réelle qu'elle fut, mais en relation avec un sacrifice qui va se trouver offert dans les versets que nous lisons, que chacun peut lire au chapitre 21. David, maintenant en présence de ce sacrifice, a vu comment Dieu peut dire à l'ange, retire ton épée, rentre-la dans le non pas en vertu d'une repentance, si sincère, si réelle soit-il, que David a formulée, mais en vertu du sacrifice qui a été offert dans l'ère d'Ornan le Jébusien. Et David va comprendre une grande leçon à cet égard. Et il va dire ce que nous avons lu, c'est ici la maison d'Éternel. Il était épouvanté à la pensée de retourner à l'autel du tabernacle, qui n'avait plus aucune relation avec l'arche, nous le savons bien. Cet autel qui parle de l'autel élevé sur le terrain ou en relation avec la loi, ministère de mort et de condamnation, qui appelle le jugement sur le coupable. C'était une terreur pour David de se trouver devant cet autel qui rappelle les exigences de la sainteté de Dieu, à laquelle nous n'avons pas pu faire face et qui appelle sur nous le jugement irrévocable. Ministère de mort et de condamnation. Mais David a compris comment la miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement, comment Dieu peut exercer sa grâce sans porter la main d'atteinte au droit de sa justice en vertu du sacrifice offert, en vertu de la victime qui paye pour le coupable. Alors voilà la découverte de David, pleine d'instructions pour nous et prérogative que Dieu tire du mal qui vient d'être commis. David a l'intelligence de cette pensée de Dieu, et voilà la base morale de la maison de Dieu qui sera édifiée dans ces jours-là, et en particulier par Salomon son fils, mais David ayant tout préparé. C'est ici la maison d'Éternel, c'est ici l'autel pour l'Holocauste de l'Éternel. Sur l'emplacement de l'aire d'Ornan, où Dieu a pu commander à l'ange de remettre l'épée au fourreau, où la justice de Dieu est satisfaite et où la grâce peut se déployer. C'est ici la maison d'Éternel. Quelle image précieuse pour nous. le fondement de cette maison de l'Éternel, le fondement de la maison de Dieu. Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Sur la personne de son Fils et sur la base de l'œuvre accomplie, personne, dira Paul, ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, savoir Jésus-Christ, la maîtresse pierre du coin, la partie essentielle du fondement sur lequel l'édifice de Dieu repose. Non plus comme dans les jours d'autrefois, une maison de pierre, belle, grande, merveilleuse. Nous allons essayer d'en voir quelques caractères et qui luttent, qui nous montrent, qui sont des images pour nous parler de ce qu'est l'Assemblée de Dieu. Ce que Paul en particulier nous a révélé, l'Assemblée de Dieu qu'il a acquise au prix du sang de son propre Fils. Mais à travers les images, les types, les figures de l'Ancien Testament, Dieu nous fait découvrir des aspects de cette maison, les gloires de Christ qui sont liées à cette maison. Ici, la maison éternelle, l'autel de l'Holocauste. Et David peut parler d'elle en disant au verset 5, c'est la premier qualificatif que nous trouvons à l'égard de cette maison, « La maison que je vais bâtir, elle est très grande en renom et en beauté dans tous les pays. » Déjà ici, l'intention de Dieu nous est montrée que cette maison, elle deviendra une maison ouverte à tous les peuples, une maison très grande en renom et en beauté, et pour dans tous les pays. Il y a déjà présenté ici dans cette expression l'intention de Dieu de faire entrer dans sa maison le pauvre étranger, le pauvre eunuque dont nous parlions l'autre jour. Au-delà d'Ésaïe 53, le prophète entr'ouvre la porte pour celui qui est loin, comme pour celui qui est près, pour celui à l'égard duquel la loi disait « Il n'a aucune place dans la maison de Dieu, il n'en aura jamais. » Mais la grâce permet à Dieu, le sacrifice de Christ permet à Dieu de faire grâce, d'ouvrir son cœur et d'ouvrir sa maison à qui que ce soit, quelle que soit la couleur de sa peau, quels que soient ses antécédents. La première chose, une maison très grande en renom et en beauté. Et David va la préparer. Il va préparer tout ce qui est nécessaire avant sa mort. Seigneur a préparé tout ce qui était nécessaire pour l'édification de cette maison. Et dans sa mort, on a posé le fondement impérissable. Et David nous dit, dans le verset 14, « Dans mon affliction, j'ai préparé pour la maison. » Il va parler de son affliction. Il va parler de son affection pour la maison de Dieu. Il va parler de toute la force qu'il a déployée pour la préparation de tout ce qui était nécessaire dans mon affection, de toute ma force. N'avons-nous pas là, chers amis, des traits qui annoncent ce que le Seigneur avait exécuté parfaitement au prix de toutes ses souffrances, au prix de sa mort sur la croix. Et les résultats sont extraordinaires. Suffit, si l'on possède une ancienne version, de faire un simple calcul, et nous dirons seulement à quoi répondent l'or et l'argent des versets 14, les 100 000 talents d'or et l'argent 1000 milliers de talents. C'est un chiffre qui dépasse l'entendement. Si nous en faisons le compte aujourd'hui, et si nous le comparons à notre or d'avant la Première Guerre mondiale, c'est un chiffre astronomique. Il défie l'entendement. De cet or non dévalué d'avant la Première Guerre mondiale, David avait préparé, rien que par l'or et par l'argent, 25 milliards de francs. Dans mon affection, de toute ma force, voilà ce que j'ai préparé pour la maison de l'Éternel, mon Dieu. Rien n'est trop grand, rien n'est trop riche, rien n'est trop beau pour elle. 25 milliards de francs, rien que pour l'argent, rien que pour l'or, sans compter les autres choses précieuses. Où trouvons-nous l'équivalent de cela dans le Nouveau Testament? Eh bien, c'est autour du trône que nous allons en contempler toutes ces richesses. À celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, celui qui est digne d'ouvrir le livre, nous allons le voir recevoir la richesse, l'honneur, la grandeur, tout ce que David a préparé, c'est lui qui va l'hériter. C'est cela que nous allons acclamer lorsqu'il sera, quand il paraîtra avec nous, admiré dans ses saints, glorifié dans ceux qui auront cru. Première chose, le fondement de la maison, sur quelle base elle repose, ce qu'elle est, son caractère, très grande en beauté et en renom. Elle se différencie sans doute de tous les grands monuments de l'Antiquité, non pas par ses dimensions impressionnantes, mais parce que c'est la maison de Dieu sur la terre. Il n'y a rien de plus beau pour Dieu que sa maison. Et encore ce mot, quand trouvons-nous pour la première fois la mention d'une maison, car c'est une grande chose, c'est une bénédiction d'un prix inestimable que d'entrer dans la maison de Dieu, de devenir des gens de la maison de Dieu. Non plus dans une maison de pierre, si belle soit-elle, mais devenir des pierres vivantes dans cette maison. C'est une bénédiction d'un prix inestimable. Quand est-ce que nous trouvons la première fois la mention d'une maison ? Dieu n'a pas habité avec Abraham. Dieu n'a pas habité avec les croyants de l'Ancien Testament avant que, si intime que soit leur rapport, Abraham a été appelé ami de Dieu et Dieu le visitait. Mais Dieu n'est pas venu habiter avec Abraham. Mais lorsque l'agneau a été égorgé, lorsque Dieu a pu dire « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous », lorsque l'agneau, par le sacrifice qui en a été fait, par le sang qui a été répandu, peut arrêter le jugement de Dieu, les droits de Dieu étant satisfaits, faisant d'Israël son peuple, alors Dieu parle d'une habitation. Dans le cantique du chapitre 15 du livre de l'Exode, je lui préparerai une habitation. C'est la première fois que nous avons dans l'Écriture la mention d'une habitation de Dieu au lendemain de la rédemption payée au prix du sang de l'agneau. La deuxième mention que nous avons de cette maison, essayez d'en voir quelques passages, nous avons 7 passages, nous essayons de les citer tous et pas les commenter. Ça forme un tableau complet de la maison de Dieu dans l'Ancien Testament, mais ce sont autant d'images si précieuses pour nos cœurs de ce qu'est l'Assemblée de Dieu aujourd'hui. Si faible que vous paraisse son état, nous y viendrons dans un instant. Dans le chapitre 22, la deuxième mention que nous avons de la maison se trouve au verset 19. Maintenant, appliquez vos cœurs et vos âmes à rechercher l'Éternel votre Dieu et levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu pour amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles du sanctuaire de Dieu dans la maison qui sera bâtie pour le nom de l'Éternel. Maintenant, invite les chefs du peuple, ceux dont le cœur est porté de bonne volonté, à s'associer à la construction de cette maison. C'est un autre côté de la vérité. Le Seigneur dit « Je bâtirai mon assemblée ». Et il effectue cette construction lui-même, ajoutant pierre après pierre, pierre vivante les unes sur les autres, sur la pierre de fondement qui est lui-même, jusqu'au moment où la dernière pierre sera ajoutée, la pierre de fête, dit le prophète. Et quand on verra la dernière pierre ajoutée, peut-être cela aura-t-il lieu ce soir, cela se passera-t-il ce soir. Quand la dernière pierre sera ajoutée, alors avec des acclamations, on va dire le fondement c'était la grâce de Dieu et le couronnement c'est la grâce de Dieu. Grâce, grâce sur elle. Seigneur bâtit son assemblée. Elle se bâtit maintenant à travers tout le désordre extérieur. Le Seigneur construit, bâtit ce qui répond à sa pensée, ce qui répond aux besoins de son cœur. Et tout à l'heure, il va se la présenter à lui-même, glorieuse. N'ayons ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Quel moment ce sera? Lorsque tous ensemble, tous les rachetés, sur la nuée, nous allons voir le Seigneur. C'est le côté du Seigneur. Et l'apôtre Pierre reprend cette pensée de Matthieu 16 et la fort bien compris qu'il n'est nullement, qu'il ne saurait être question qu'il fasse partie du fondement. Et il nous montre que nous sommes, si nous avons cru au Seigneur Jésus, si nous avons réalisé qu'il est bon, que nous avions besoin d'un sauveur, Si nous sommes venotés de la croix, Dieu a fait de nous de bien-aimés enfants, lavés dans le sang de l'agneau. Nous sommes devenus des pierres vivantes, dit Pierre, et Pierre ne parle pas en aucune manière d'un instrument humain pour bâtir cette maison. Elle se bâtit sans qu'il nous dise comment, mais nous le savons, c'est le Seigneur qui l'a bâti. Et nous ouvrons la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, où nous avons un autre aspect de la construction, et nous pensons qu'on peut le mettre en rapport avec ce que nous trouvons ici. C'est le côté de la responsabilité de l'homme. Dieu nous appelle à collaborer à ce travail de la construction de sa maison. Et Paul dira, comme un sage architecte, « J'ai posé le fondement qui est Christ, fondement impérissable, fondement incomparable, dans sa valeur, dans ce qu'il est pour le cœur de Dieu. » Et maintenant, dit Paul, après avoir posé le fondement, un autre édifie dessus. Et il nous dit, si quelqu'un, la responsabilité de l'homme est engagée, si quelqu'un édifie dessus, il doit savoir quel matériau apporter, car il y a de bons ouvriers qui apportent, nous avons entendu cela combien de fois, de bons ouvriers qui apportent de bons matériaux, de mauvais ouvriers, hélas, qui sont sans doute des croyants, des enfants de Dieu, mais qui apportent de mauvais matériaux, qui donne de la valeur à l'homme que Dieu a mis entièrement de côté en le crucifiant à la croix. Et enfin, des corrupteurs, ils sont légions aujourd'hui. Nous savons comment ils frappent à notre porte pour venir nous enseigner que Jésus n'est pas Dieu. Petits enfants, c'est la dernière heure. L'esprit de l'Antichrist était déjà sur la scène. Que dire aujourd'hui? Niant que Jésus soit le Christ, niant sa gloire messianique, niant qu'il soit le Fils du Père. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. L'homme est donc appelé à coopérer à la construction de cette maison. Et les bons ouvriers apportent de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Par l'Esprit de Dieu met en évidence la gloire de Dieu liée à cette maison, les gloires de Christ, la justice de Dieu qui est relative à la construction de cette maison. Étant justifié par sa grâce, justifié par Dieu lui-même au prix du sang de la croix, le propitiatoire que Dieu a devant lui, sur lequel il y a le sang, et qui permet à Dieu de nous justifier, de nous pardonner justement la justice, l'or, image de la justice de Dieu, de la gloire de Dieu, l'argent, image de la rédemption si connue, et les pierres précieuses, toutes les gloires de Christ, que l'Esprit met en évidence, prenant de ce qui est à lui, pour nous l'annoncer. Celui-là me glorifiera, dit-il. De sorte que, petite digression, un ministère où nous n'entendons pas la gloire de Christ revendiquée, présentée, sans la moindre altération, dans la parfaite unité des personnes divines, la plénitude de la déité habitait en lui corporellement lorsqu'il était dans ce monde. La sainte chose n'est dans le monde, mystère inscrutable sans doute, mais Dieu était en Christ. Le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Et nous avons souvent entendu rappeler que l'ange de l'Éternel, avec un A majuscule de l'Ancien Testament, se trouve là. Et c'est un ange avec un A minuscule qui vient annoncer au berger, « Voici, je vous annonce un grand sujet de joie. Il n'y en a point de comparable, car aujourd'hui, dans la cité de David, à Bethléem, vous aidez le Sauveur qui est le Christ du Seigneur. » Ce n'est pas l'ange, si grand que soit ce message, si important à nul autre comparable qu'il soit. Ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui vient parler au berger, mais c'est l'ange, un ange simplement, parce que l'ange de l'Éternel, celui qui le représente dans la réincarnation qu'il allait revêtir, l'ange de l'Éternel, c'est lui qui est là, couché dans la crèche, petit enfant, en mailloté, suprême vêtement, Dieu manifesté en chair, étant en forme de Dieu, s'anéantissant lui-même, s'abaissant lui-même, c'est une de ses gloires. Personne ne peut quitter la position dans laquelle Dieu l'a placée. C'est un devoir moral. Lui, sa gloire, c'est de quitter cette élévation, cette grandeur, cette gloire suprême, et de s'abaisser pour être trouvé en figure comme un homme, prenant la forme de cet esclave. l'homme maquis comme esclave dès sa jeunesse. Eh bien, nous sommes invités ici à travailler à cette maison et à porter chacun de nous les matériaux qui contribuent à la construction, à l'édification de cette maison. Vous voyez ce que David dit en s'adressant au chef, bien, appliquez vos cœurs au verset 19 et vos âmes, recherchez l'Éternel votre Dieu, levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel. Là, maintenant, vous avez le sanctuaire, le lieu saint, le lieu dans lequel Dieu peut habiter et dans lequel Dieu nous appelle à entrer. N'est-ce pas, chers amis, une forme de notre bénédiction des plus précieuses, que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Qui a pu se tenir dans la présence de Dieu sans être jeté par terre? Un saint comme Daniel, dans la vie duquel il n'y avait rien à reprocher, en présence d'un échantillon de quelque chose, de la gloire de Dieu, sans doute, brillant d'un éclat incomparable. Daniel se trouve jeté par terre, son teint frais changé en corruption. Et nous entrons dans la présence de Dieu, sans aucune crainte. Nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Peut-il y avoir un titre plus précieux que celui-là? Les hommes fournissent les plus grands efforts pour devenir des gens d'une grande maison, d'une maison princière. Il n'y a pas de titre plus grand que celui-là. Si faibles que nous soyons, si misérables que soit notre condition sur la terre, pourront dire, je suis un enfant de Dieu. Voyez de quel amour le Père m'a fait donc que je sois un enfant de Dieu. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Jean de la maison de Dieu, répondant quant à ce que je suis en vertu de l'œuvre de Christ, à toutes les nécessités morales de la sainte nature de Dieu. Je suis rendu saint, puis rendu agréable, tant bien-aimé, saint, irréprochable et irrépréhensible par l'Éternel. Dieu ne peut plus rien mettre à charge aux croyants lavés dans le sang de l'agneau. Et comme tel, habilité, appelé à bâtir le sanctuaire de l'Éternel, s'occuper de cette maison dans laquelle Dieu habite, le lieu saint, comme nous le trouvons à la note. Deuxième leçon, le sanctuaire, le lieu de la sainteté de Dieu, dans laquelle nous entrons et auquel nous sommes invités, dans lequel nous sommes invités à travailler. Troisième figure de la maison, nous l'avons dans le chapitre 28. Et elle n'est pas moins précieuse. Le roi David, au verset 2, se lève sur ses pieds et dit, écoutez-moi, mes frères, et mon peuple. Et cette voix, à travers les âges, vient jusqu'à nous. Écoutez-moi. J'avais dans le cœur de bâtir une maison de repos pour l'âge. Et plus loin, il va nous dire qui a été choisi pour bâtir cette maison. Il y a d'abord la maison de son père, au verset 4. La tribu de Juda, au verset 4, toujours. Il y a Salomon qui est choisi, et encore une fois mentionné ce choix au verset 6. Le choix de Dieu pour désigner de la façon la plus précise celui qui allait construire une maison de repos pour l'arche. Nous n'aurions pas assez de nos réunions pour nous arrêter en détail sur cette expression, une maison de repos pour l'arche. Ici, la maison que Salomon construit, c'est une image de ce qui aura lieu dans le siècle à venir, la maison glorieuse qui sera édifiée sur la terre. C'en est une image. Le rétablissement de toutes choses, le Seigneur habitant dans sa maison. Mais, chers amis, la maison de repos pour l'arche a une signification extrêmement précieuse pour nous. Car l'arche avait accompagné le peuple tout au long du désert, pendant tout le chemin du désert. Et maintenant, Salomon a à cœur de bâtir une maison de repos pour l'arche. C'est-à-dire que demain, quand la maison de Dieu sera édifiée sur la terre, ce sera le temps du repos millénaire. Car il reste un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Nous sommes bien d'accord sur ces points. Mais l'application pour nous, j'avais à cœur de bâtir, et c'est Salomon qui est désigné pour le faire, de la tribu de Juda, de ma famille, de la tribu de Juda, c'est Salomon qui est qualifié, qui est choisi pour le faire, dans la famille de David. David qui a tout préparé, et Salomon qui profite de toutes les préparations de David pour construire une maison de repos pour l'arche. Qu'allons-nous dire, qu'allons-nous trouver dans cette expression? Eh bien, nous le chantons quelquefois au culte. Il est entré dans le repos, il s'est assis dans le repos, dans la lumière. L'arche, image si saisissante de Christ. L'arche de bois de Sittim, bois qui pousse dans les rocailles, sortant en en rejetant d'une terre aride, nous n'avons eu pour lui aucune estime. Qui est-ce qui a cru à ce que l'Éternel a fait entendre? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il est passé au milieu des hommes, sans attirer l'attention, ne recueillant que le mépris, ne recueillant que la méchanceté. Ils m'ont rendu la haine pour mon amour. Et pourtant, Dieu est là, dans l'abaissement le plus grand, le bois de Sittim, car l'arche est plaquée d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Et sur l'arche, il y a le propitiatoire sur lequel le sang était apporté. Une maison de repos. Il y a le propitiatoire sur lequel le sang était apporté. Une maison de repos pour l'arche. Après avoir accompli l'œuvre pour laquelle il était venu dans ce monde, il a pu dire, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Et en présence de la croix, maintenant, Dieu est glorifié. Et incontinent, sans attendre, Dieu va le glorifier, le ressusciter par la gloire du Père et le faire asseoir à sa droite sur son propre trône. Une maison de repos pour l'arche. Quel bonheur pour nous. L'œuvre est accomplie. Il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli. Et la satisfaction de Dieu se trouve et se démontre par ce fait. Il a exalté le chef de notre salut, notre sauveur, traversant tous les cieux, le saluant selon le rang le plus élevé, celui de Melchizedek, et lui disant, assieds-toi sur ton propre trône, jusqu'à ce que tous tes ennemis soient mis pour marchepied de tes pieds. Une maison de repos pour l'arche. La maison céleste, la maison du Père dans laquelle il est entré comme précurseur pour nous. C'est le troisième caractère que David place devant nous, une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel, en vertu de l'alliance éternelle, fondée, basée sur le sang de la croix. Dieu peut nous introduire avec lui dans le repos, là où moi je suis, dit-il, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. Nous attendons ce repos. Seigneur, il est entré, il est le précurseur pour nous, chef et consommateur de la foi, assis au plus haut des cieux. Nous sommes là déjà vus en lui, car pour Dieu nous sommes déjà pour Dieu glorifiés. Ceux qu'il a préconnus, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, c'est le passé. Il les a justifiés, c'est le passé, en vertu du sang qui a été répandu à la croix. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi, c'est encore le passé, il les a aussi glorifiés. C'est une question de temps, ce n'est plus une question de droit. De droit, nous sommes justifiés, et nous sommes déjà pour Dieu glorifiés. Et si Dieu attend, c'est parce qu'il y a encore une âme, quelques âmes sauvées, parmi nos familles sans doute. Mais nous allons entrer en possession de tout ce que Dieu nous a donné, tout ce qui a été acquis au prix de l'œuvre de Christ, d'un instant à l'autre. La maison de repos pour l'âge. Nous tournons encore une page et nous allons trouver le quatrième caractère de la maison dans le chapitre 28 toujours et au verset 11, ce qui ne manque nullement d'intérêt. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et de ses maisons. Et de ses trésoreries, et de ses chambres hautes, et de ses chambres intérieures, et de la maison du propitiatoire. Et le modèle de tout ce qu'il avait par l'esprit, touchant les parties de la maison d'Éternel, et toutes les chambres, et ainsi de suite. Donc, ici, David a donné à Salomon d'abord le modèle du portique. N'est-ce pas, cher, significatif pour nous? Comment entrons-nous dans cette maison? Comment entrons-nous? Par quelle porte entrons-nous? Nous ne pouvons pas rentrer par aucune porte, sinon par celle que le Seigneur nous ouvre. Et nul ne vient au Père que par moi. Ami, comment es-tu entré ici sans avoir une ordonnance? Parce que Dieu nous revêt de la plus belle robe pour entrer dans sa maison, la robe de la justice. Et celui qui se base sur ses œuvres, sur ses bonnes dispositions, sur quoi que ce soit, ou sur la religion traditionnelle,
Il lui sera dit, ami, comment es-tu entré ici sans avoir revêtu une robe de noces, sans avoir été lavé dans le sang de l'agneau, jeté dehors dans les ténèbres, là où seront les fleurs et les grincements de dents. Le portique, tout de suite, nous est présenté. D'abord, pour entrer dans la maison, nous avons besoin de pénétrer par ce portique. Et si nous faisons attention, car il n'y a pas de détails inutiles dans la parole de Dieu, quelles sont les dimensions et les caractères de ce portique? Nous sommes remplis d'admiration lorsque nous lisons cela. Le portique avait exactement les dimensions de la maison. 20 coudées de longueur pour 20 coudées de largeur de la maison. Et il était d'une hauteur extraordinaire. Et il est dit de lui, et à l'intérieur, il était revêtu d'or pur, car celui qui est là dans la maison le plus grand, et qui invite à entrer dans la maison de Dieu par son moyen, par le chemin nouveau et vivant qu'il avait consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, moi je suis la porte, c'est en même temps Dieu béni éternellement, sur toute chose béni éternellement. Le modèle du portique, les mêmes dimensions que la maison, mais revêtu d'or à l'intérieur. C'est par le portique que nous entrons dans cette maison, c'est par Christ, c'est par lui. Et grâce à l'œuvre qu'il a accomplie, après le portique, lisons-nous. Les maisons, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Les maisons, les trésors, quels trésors nous avons cachés au ciel. Paul nous parle de nos trésors qui sont là-haut. Trésors cachés auprès de Dieu en Christ. Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et Paul nous parle dans l'Épître aux Éphésiens plusieurs fois des richesses, et des richesses insondables du Christ. Le portique, les maisons, les richesses, les trésoreries, que de choses précieuses pour nos cœurs. Mais ce n'est pas terminé. Nous lisons ensuite les chambres hautes de la maison, la position que nous occupons. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, la position du croyant. C'est un homme en Christ présenté en justice devant Dieu. La position élevée du croyant, d'honneur, d'élévation en vertu de la perfection de l'œuvre de Christ. Et non seulement la maison des chambres hautes, mais les chambres intérieures. Les chambres les plus intérieures, qui parle de l'intimité et qui parle de la relation dans laquelle nous sommes établis. Voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et par l'esprit d'adoption que nous avons reçu, nous crions « Abba Père ». Nous disons « à Dieu, mon Père, comme le Seigneur lui-même, au jour si émouvant, il se jette sur sa face, évoquant, montrant, exprimant la relation la plus douce entre son cœur et le cœur du Père. Abba Père. Vient de cette manière, n'est-ce pas propre à nous confondre, de la même manière, nous disons Abba Père. Au grand Dieu des cieux et de la terre, à Elohim qui a créé les cieux et la terre. Ce Dieu grand, puissant, redoutable dans l'Ancien Testament, il est devenu notre Père. Et nous disons Abba Père. Les chambres hautes, les chambres intérieures. Quel trésor, quelle joie, quel bonheur. Les chambres intérieures pour et de la maison du propitiatoire, tout ce qui t'a été montré par l'Esprit. C'est donc la quatrième mention que nous avons de la maison avec ses dispositions et le portique pour y entrer. Peut-on espérer, chers amis, que tous ceux-ci, jeunes ou plus âgés, sont entrés par ce portique. Une autre mention, la cinquième, et bientôt boitée vers la fin, se trouve dans, un peu plus loin, dans le chapitre 29, au verset 1. C'est la cinquième mention de la maison. Le roi David dit tout à toute la congrégation, Salomon, mon fils, le seul que Dieu ait choisi. Il n'y a pas d'autre nom par lequel il nous faille être sauvés. Le seul nom par lequel il nous faille être sauvés. Christ est le seul nom donné par Dieu pour les hommes par lequel il nous faille être sauvés, c'est-à-dire le nom de Jésus, autrement dit Jéhovah Sauveur. L'Éternel, Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus, Jéhoshua, Josué, Jéhovah, Jésus, c'est une seule et même personne. Il n'y a pas d'autre nom, dira Pierre, donné sous le ciel, par lequel il nous faille être sauvés, sinon le beau, le grand nom de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur. Alors, Salomon, il est le seul que Dieu a choisi pour cet ouvrage qui est grand, pour ce palais. Voilà une autre expression. Et ce palais n'est point pour un homme, mais pour l'éternel Dieu. Le palais qui nous parle de grandeur en Épître aux Éphésiens. Nous avons les équivalents, nous n'avons pas le temps de tout mettre en relation. Mais vous pouvez bien le faire, prendre une feuille et noter les 7 caractères de la maison de l'Assemblée dans l'Épître aux Éphésiens. Le corps de Christ, la maison de Dieu, l'édifice, une habitation de Dieu par l'Esprit, le Temple Saint, et vous les mettez en relation avec ces expressions que nous lisons, vous verrez quelle relation extraordinaire vous allez trouver. Bien ce palais, cet édifice dans lequel Dieu habite, et dans lequel nous avons notre place. N'est-ce pas extraordinaire? Ce seul que Dieu a choisi, c'était pour réaliser une maison qui est un palais. Et de toute ma force, au verset 2, remarquons maintenant, de toute ma force, j'ai préparé pour la maison de mon Dieu de l'or et tout ce qui était nécessaire. La cinquième mention, c'est donc la maison de Dieu qui est appelée un palais. Ce qui est grand, ce qui est majestueux et ce qui répond à la grandeur de celui qui s'est abaissé jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Considérez, dit l'apôtre, combien grand déjà était celui à qui Abraham, le patriarche, a fait don de tout le butin et à qui il a offert la dîme. Combien grand était celui-là, et quittant cette grandeur, il s'est abaissé jusqu'à cette mort ignominieuse de la croix. Vous l'avez cloué à ce bois d'infamie, mais Dieu l'a ressuscité, l'a exalté et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, bon gré mal gré, tous les êtres célestes, terrestres et infernaux devront confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ce palais qui a été préparé, ce palais dans lequel nous allons entrer, tout repose sur le don qu'il a fait de sa vie. Nous tournons encore une page au chapitre 2 du second livre de Moïse et nous avons un sixième caractère de cette maison. Verset 4. Voici, je bâtis une maison pour le nom d'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer. Pourquoi, Seigneur? Qu'allons-nous faire dans cette maison? C'est ce que nous allons faire demain en perfection. C'est ce que nous faisons déjà maintenant dans la faiblesse. Voyez, une maison pour le nom d'Éternel, pour la lui consacrer, pour faire fumer devant lui l'encens de drogues odoriférantes et pour l'arrangement continuel des pains. Et pour les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des jours solennels de l'Éternel, notre Dieu. Cela est prescrit à Israël à toujours. Arrêtons-nous d'une expression. Une maison pour le nom d'Éternel, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce grand nom de Jéhovah Sauveur, ce nom qui parle maintenant d'un Jésus exalté, non plus un Jésus humilié, abaissé sur la terre, mais le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Il y a un nom au ciel qui n'était pas connu avant l'incarnation de notre Sauveur. C'est le nom du Seigneur Jésus. C'est une maison bâtie pour lui qui porte ce nom si glorieux, le nom du Seigneur Jésus, afin de la consacrer et de faire d'abord fumer devant lui l'encens des drogues odoriférantes. Et si nous lisons dans le livre d'Exode, et nous avons des écrits d'une valeur incomparable sur cet encens et sur ces aromates précieux entre tous qui constituaient l'encens précieux que l'on brûlait sur l'autel, le stag, le galbanum, la coquille odorante, l'encens de tout à trois égales. Personne n'avait le droit, c'était une offense à Dieu, d'en flairer de semblables ou d'en constituer de semblables. Tout était pour Dieu, qu'il est très fin sur le propitiatoire, toutes les gloires de celui qui se livre entièrement pour accomplir la volonté de Dieu jusqu'à la mort et à la mort de la croix, pour donner à Dieu l'occasion de déployer toutes ses pensées de grâce et d'accomplir le propos qu'il a conçu dès les temps des siècles. Les grandes de référence, l'autel d'or où nous venons apporter, nous venons faire brûler l'encens, c'était l'occupation par excellence des fils d'Aaron. C'est ce que, si le Seigneur nous laisse jusque-là, nous aurons l'occasion de faire demain, chacun dans l'assemblée à laquelle nous nous rattachons, faire fumer l'encens des drogues odoriférantes, raconter au Père toute la gloire de son Fils, faire fumer l'encens des drogues odoriférantes pour l'arrangement continuel des pains, comme cela nous touche et nous instruit tout à l'heure. En même temps que nous racontons au Père toute sa gloire, nous arrangeons les pains de sabbat. Chaque sabbat, les pains de proposition, les 12 pains étaient remplacés sur la table d'or, et nous, chaque premier jour de la semaine, tout en adorant le Père, tout en rendant culte au Père, le Père en cherche de tel qu'il adore, nous nous souvenons de la mort de Christ. Nous nous souvenons du prix qui a été payé pour que nous soyons, pour que nous devenions des adorateurs qui peuvent adorer le Père en esprit et en vérité. Mais tout à la fois, en participant à la scène, nous exprimons que, et en communion les uns avec les autres, nous exprimons que nous sommes un seul pain et un seul corps, et qui ne se limite pas évidemment à l'assemblée locale, mais dans ce seul pain, nous avons le symbole de l'Église tout entière. Et ne serions-nous que quelques-uns pour nous réunir sur ce terrain du seul corps de Christ, le seul que Dieu reconnaisse sur la terre, en dehors et indépendamment de toutes les dénominations fabriquées par les hommes. Dieu ne reconnaît qu'un seul corps, celui formé par le Saint-Esprit entre tous les saints, entre tous les rachetés, et qui forme le corps de Christ. Nous ne sommes que quelques-uns. Nous ne sommes que quelques-uns pour rappeler, pour annoncer la mort du Seigneur et pour exprimer ce qu'est l'Église. Mais elle est là, elle existe. Nous le faisons sans doute dans un sentiment d'humiliation, car qui pourrait oublier que nous participons à une Église en prime. Notre témoignage, disait nos chers devanciers, il est à l'unité du corps de Christ. Il y a un seul corps aujourd'hui, malgré les miettements d'Église, malgré la nécessité de mettre le voile sur notre visage, mais il y a un seul corps aujourd'hui, promotant des actes. Parce que cette unité est indestructible. Elle est formée divinement par le Saint-Esprit. Et nul ne peut la rompre. Mais sa manifestation extérieure a été perdue. C'est une image sans doute bien incomplète, mais on a parlé, on a montré cette réalité dans une image, une chaîne sur un bord de la rivière, et la chaîne est sur l'autre rive, mais la chaîne passe dans le lit de la rivière, dans la barre, on ne voit pas la chaîne, mais elle existe, pour la foi elle est là, et demain elle sera vue dans toute sa beauté. Dans toute sa gloire, et le monde connaîtra que nous étions aimés. Les pains à placer en rangée, c'est un témoignage que nous avons à rendre jusqu'à la fin. Mais nos devanciers étaient à côté de notre témoignage à l'unité du corps de Christ, et ils étaient. Et ils n'ont pas manqué de le répéter à la brine de l'Église. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est juste, et vous voyez, pour faire fumer l'encens et pour l'arrangement continuel des pains. Il y aura un témoignage rendu jusqu'au retour du Seigneur, le témoignage de Philadelphie. Et l'autre jour, nous rappelons ce qui nous a été, ce que nous avons pu lire il n'y a pas longtemps, et c'est une pensée qui nous a beaucoup frappé. Philadelphie, comment le définir aujourd'hui? Ce n'est pas facile. Et dire que nous sommes Philadelphie, ce serait en tout cas exprimer que nous avons perdu entièrement le caractère moral de Philadelphie. Mais que nous ayons à cœur de revêtir le caractère de Philadelphie, nous ne saurions trop le désirer dans notre cœur. C'est-à-dire, ce qui caractérise un résidu dans tous les temps, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Mais ce que nous voulons dire, c'est ceci. Avant le réveil du siècle dernier, il n'y avait quand même aucune dénomination. Il faut quand même bien que nous réalisions cela. Il n'y avait aucune dénomination réunie sur le pied de Philadelphie. Vous voyez, c'est un témoignage suscité pour la fin et qui dure par la grâce de Dieu jusqu'à maintenant, depuis plus de 150 ans. Et ce témoignage durera jusqu'au bout, puisque le Seigneur dit « Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui vient sur la terre habitée tout entière. » Mais il n'est pas dit que chacun de nous en fera partie. pas plus celui qui parle que celui qui écoute. Que le Seigneur nous accorde la grâce de souhaiter faire partie de Philadelphie, nous ne saurions trop le souhaiter, trop le demander. De sorte que faire fumer l'encens, présenter l'encens des pauvres de nos différences, rendre ce témoignage en l'unité du corps de Christ, et en la façon du pain, tout en nous souvenant de la mort de Christ pour nous, c'est le côté de la scène du Seigneur à nous, mais ce qui est dépendant ne peut pas être méconnu, et nous l'avons ici, les pains à placer en rangée, avec les holocaustes du matin et du soir, la bonne odeur du sacrifice de Christ qui monte sans cesse devant Dieu et que nous lui rappelons, et cela est prescrit à Israël à toujours. C'est un service qui sera rendu juste à nous. Cela est prescrit à Israël à toujours. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Cela est prescrit à toujours. Vous voyez l'harmonie de la parole de Dieu. La septième et dernière mention, nous la trouvons maintenant dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6. Et c'est pour notre joie, en terminant notre petit entretien. Chapitre 6 du second verset. David peut dire, c'est Salomon, pardon, qui parle. Mais moi, dit-il, j'ai bâti une maison d'habitation pour toi, un lieu fixe, pour que tu y demeures à toujours. Eh bien, ça veut dire, nous avons là une échappée sur l'éternité, un lieu fixe pour que tu y demeures à toujours. La position du croyant établie pour l'éternité. Nous n'avons plus jamais quitté le ciel. Nous serons, c'est ça le ciel. Les descriptions du ciel ne sont pas nombreuses dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que le ciel pour le croyant? Eh bien, n'est-ce pas la présence du Seigneur? Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Il va descendre lui-même du ciel. Il nous aime assez que pour venir. Lui-même nous aime bien trop que pour envoyer un ange, si élevé soit-il dans la hiérarchie angélique. Il nous aime assez que pour venir lui-même. Et déjà l'Ancien Testament dit, lui-même viendra et vous sauvera. Nous attendons le Seigneur qui va descendre lui-même du ciel pour venir nous chercher et nous introduire avec lui dans la maison du Père, pour être toujours avec lui. Dernièrement, nous asseyons comme conclusion. Nous voulons nous permettre de poser une petite question à nos jeunes amis. Cette maison dont nous avons dit faiblement quelques mots, elle est un type de ce qui sera établi demain en vertu de l'œuvre de Christ et en relation avec la terre. Dans le livre d'Esdras, il y a la mention de la maison, lorsqu'elle a été, parce que cette maison, elle a été livrée aux flammes. Qu'est-ce que nous avons pu garder? Si ce temple, ce palais si beau, le Seigneur l'avait dit, et il est conscient de votre responsabilité, mais qu'est-il devenu? Un monceau de ruines. 4 siècles plus tard, il ne restait plus rien de ce temple. 70 années plus tard, Dieu a permis que la maison soit reconstruite. C'est la dernière épreuve à laquelle il soumet son peuple, car son fils va venir prendre connaissance de ce qui concerne ce peuple et accomplir tout ce que Dieu a dit concernant la promesse depuis le commencement. Et il va venir dans sa maison. Dans l'évangile selon Matthieu, le Seigneur parle encore de la maison de son père. Mais elle devient une taverne de bonheur et à nouveau elle sera détruite. Et elle ne sera plus reconstruite. Seulement, l'Église, l'Assemblée prend la place d'Israël sur la terre. Mais au temps d'Esdras, rapidement, seulement 2 mois, au temps d'Esdras, la maison était reconstruite. Mais elle n'est plus du tout comparable à ce qu'elle était au jour de Salomon, c'est clair. Mais les anciens, et selon les rapports qu'ils en avaient faits, avaient pu parler de cette maison qu'ils avaient connue, qui avait pas longtemps, il y a environ 70 ans qu'elle était détruite. Peut-être même moins, puisqu'elle a été détruite en 588, et on remonte déjà de la captivité en 536, et les fondements sont déjà posés dans les suivants. Donc vous voyez, certains se souvenaient encore, avec un souvenir assez précis, de cette maison du temps de Salomon, quand la gloire le remplissait, parce que cette maison elle a été remplie de la gloire de Dieu, nous n'avons pas eu le temps de voir tout, bien entendu. Mais quand cette maison est construite au jour des races, elle a subi une interruption, et ensuite, 16 ans plus tard, enfin, elle est construite, et
pu offrir des sacrifices, elle peut donc remplir son rôle. Eh bien, chers amis, il y a une question qui se pose, et c'est celle-ci, en terminant. Ceux qui sont là autour de cette maison, ils la regardent, et ils ont des sentiments bien tristes, des sentiments d'affliction, et ils disent cette maison, quand nous pensons à la maison, nous sommes, cette maison, elle n'est plus rien. Mais, pour ne pas se décourager à croire le découragement l'un de l'autre, sans doute, ils ne le disent pas tous, mais ils le pensent. Et le prophète Agée vient leur dire, n'est-ce pas que c'est bien cela que vous pensez? N'est-ce pas que vous pensez bien que cette maison, c'est ça que vous dites dans vos cœurs, cette maison, Seigneur. Eh bien, nous nous permettons de poser cette question. L'assemblée pour vous aujourd'hui, chers jeunes amis, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est? Quel est votre sentiment à l'égard de la maison de Dieu aujourd'hui, de l'assemblée? Vous allez voir comment le prophète va nous parler. En une phrase, il va éclairer le problème de façon éclatante. Mais il nous dit, qu'est-ce que vous pensez de cette maison? Qu'est-ce que vous pensez de la maison de Dieu aujourd'hui? Si nous pensons à nos devanciers, ou qu'on nous dit, nous avons des lettres, nous avons des rapports, nous savons bien que les choses du siècle dernier ont été extraordinaires. Il y a eu un déploiement de la puissance de Dieu qui était extrêmement sensible. Aujourd'hui, ce sont des temps de faiblesse, des temps d'infirmité manifeste. Mais, quoi qu'il en soit, que pensez-vous de la maison de Dieu aujourd'hui? Eh bien, le prophète dit, n'est-ce pas, c'est comme rien à vos yeux, mais ne vous trompez pas. Et voici la réponse du prophète. Et vous allez choisir la meilleure formule. Le prophète dit une des deux choses. La gloire de... Vous voyez, ce n'est rien cette maison. Mais la gloire de cette dernière maison, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. C'est une manière de parler. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Ou bien, la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première. Comment il dit? Non pas la gloire de la dernière maison, parce que pour Dieu, il n'y a qu'une maison. Au jour de Salomon, au jour d'Esdras, au jour du Seigneur, c'est une seule et même maison. Quel que soit son état, quel que soit l'état dans lequel nous la voyons aujourd'hui, c'est la maison de Dieu. C'est l'assemblée qui la guide au prix du sang de son Père. Et n'est-ce pas un encouragement extrêmement précieux que le Seigneur vient dire, eh bien, ne vous découragez pas, vous avez des ressources d'un plus infime malgré tout ce qui est écroulé autour de vous. Ma parole et mon esprit demeurent avec vous, et je suis avec vous, là où deux ou trois, la terre des cieux sont assemblés, je suis là. Et la dernière gloire de cette maison, non pas la gloire de la dernière maison, car il n'y en a qu'une, la dernière gloire de cette maison qui vous paraît si faible aujourd'hui, elle sera bien plus grande que celle du livre des Actes, car nous en voyons cela.